vous allez être content, ce soir on va célébrer un autre temps où une certaine musique était, comment dire, entourée d'un certain mystère et faisait rêver autrement. Peut-être que vous vous rappelez ça. Forcément, vous vous souvenez de ça si vous écoutiez Bernard Lenoir sur France Inter au milieu des années 90. Cannonball par les Breeders, ça a été une sorte de tube dans la sphère, bon, encore modeste, de ce qu'on appelait en ce temps-là le rock indépendant, indie rock, rock indé, hein, au temps où tout ça avait encore un sens d'ailleurs déjà altéré quand Smells Like Teen Spirit, hein, de Nirvana en 1991-92 est devenu un tube mondial. Bah oui, Nirvana c'était un groupe sorti de l'underground et il venait de quitter Sub Pop, hein, la petite compagnie de Seattle qu'il avait lancée, pour confier son sort à une multinationale, ce qui avait provoqué une sorte de crise de conscience chez Kurt Cobain. Oui, en ce temps-là, la notion d'une musique, entre guillemets, pas comme les autres, comme on disait, pure et dure, anti-establishment, défendue par des amateurs et des passionnés, parfois intolérants, voire limite intégristes, était encore très vivante. Et au cœur de tout ça, il y avait dans ces années-là, justement, une petite maison de disques, pas comme les autres, 4AD, 4AD basé à Londres et qui a joué durant cette période charnière un rôle central et dont l'histoire, le destin, raconte ce passage contradictoire et difficile de l'underground à ce qu'on a appelé le mainstream, c'est-à-dire le courant principal. Alors il se trouve, je vous ai déjà parlé de ça avant-hier, que la compagnie 4AD, qui est aujourd'hui basée aux États-Unis, ça fait longtemps qu'elle a été vendue et rachetée, célèbre ses 40 années d'existence grâce à une compilation où des artistes d'aujourd'hui reprennent des titres souvent obscurs qui ont fait son histoire. Alors si je vous parle de groupes comme Cocteau Twins, Dead Can Dance, His Name Is Alive, alors bien sûr les connaisseurs vont être fort aises, comme disait La Fontaine, mais beaucoup sans doute vont lever un sourcil interrogateur. Alors on vient d'écouter les Breeders, c'est un groupe américain qu'a formé à Boston il y a plus de 40 ans déjà, j'y crois pas, Kim Deal, qui était la bassiste d'un groupe que vous connaissez sûrement, les Pixies. Et d'ailleurs c'est Kim Gordon de Sonic Youth qui avait réalisé la vidéo de Cannonball qui tournait à ce moment-là en boucle sur la chaîne MTV et qui a beaucoup fait pour populariser le rock dit alternatif. Mais enfin, entre-temps déjà, dès l'année 1989, eh bien les Pixies avaient percé sur un plan international, particulièrement en France, où ils avaient acquis une popularité certaine, inspirant même toute une génération de musiciens français. Je pense en particulier au groupe Dionysos, fondé à Valence par Mathias Malzieu et ses copains. Alors c'est en fait un Anglais, le fondateur de la maison 4AD, un certain Ivo Watts Russell, qui a découvert et lancé les Pixies. Mais pas seulement, il a aussi créé autour d'eux un certain mystère propice aux rêves. Sur les pochettes des albums des Pixies, je pense à Surfer Rosa, Doolittle, sorti en 89-90, il y avait de vraies pochettes, tout sortait encore en vinyle dans ces années-là. On ne voyait pas le visage des musiciens, le nom du groupe était indiqué en petit, il fallait vraiment le chercher à la loupe. Et puis, les images qui ornaient ces pochettes étaient énigmatiques, comme, je ne sais pas, dans l'album Doolittle des Pixies, la photo noir et blanc d'un singe entouré de lignes et de chiffres cabalistiques qui ornaient ces images qui se présentaient comme des énigmes à déchiffrer. Des images qui étaient le fruit du travail du graphiste Vaughn Oliver, partie intégrante de 4AD. Celui-ci partageait avec Ivo Watts Russell la conception de l'album comme une œuvre d'art à part entière, un objet magique dont vous touchiez le carton, vous renifliez l'intérieur, j'avoue je l'ai fait bien des fois, vous examiniez sous toutes ses coutures, voilà les textes écrits dans tous les sens, une expérience qui associait la musique du disque vinyle, d'ailleurs le disque vinyle vous le retiriez délicatement de son enveloppe, il fallait surtout pas poser le doigt dessus, à une expérience sensorielle totale. Alors il faut le souligner, la publication des albums des Pixies et des Breeders aux yeux de ceux, enfin aux oreilles, de ceux qui guettaient les publications de 4AD a pu surprendre. Jusque-là en effet, 4AD se tenait assez éloigné du rock comme style musical à proprement parler, de toute forme de facilité en tout cas, et diffusait des musiques étranges, indéfinissables. Des voix froides, grinçantes, comme celle du jeune Nick Cave au sein de son groupe The Birthday Party, à mes oreilles c'était plutôt du free jazz d'ailleurs que du rock, ou alors je pense à Matt Johnson alias The, un nom intrigant, un des musiciens d'ailleurs les plus antipathiques qu'il m'ait jamais été donné d'interviewer. Sa personnalité comme sa musique suscitait le malaise, et puis il y avait aussi Bauhaus, un rock gothique, enfin c'était le plus rock du lot. Mais il y avait aussi surtout des musiques qu'on n'avait jamais entendues, qui ne correspondaient à rien de ce qu'on connaissait, comme l'écossais Cocteau Twins ou Dead Can Dance, de puissantes voix féminines venues d'autres temps, d'autres horizons, d'autres contrées battues par les vents et les tempêtes, des voix de fées, de sorcières ou de magiciennes. 4AD, c'était ça, entre autres. Et quand, à la fin des années 80, le succès est arrivé, Watts Russell était partagé. D'un côté, il était heureux, mais d'un autre, il sentait qu'il déviait de son cap et que 4AD était en train de devenir une entreprise commerciale comme les autres, qu'il ne tarderait pas d'ailleurs à bientôt quitter. Alors, c'est l'histoire très brève, très lacunaire, très accélérée, une heure, c'est pas beaucoup, de 4AD que j'ai eu envie d'évoquer ce soir dans Very Good Trip. En commençant par ce titre qui, à l'époque lointaine, 1982, pour moi c'était hier, m'avait enchanté. Pourquoi ? Eh bien parce que ce groupe de la région de l'Est de Londres, Modern English, par un étrange phénomène de télépathie, était parvenu à créer une chanson de New Order presque meilleure que celle de New Order. Enfin, vous en jugerez. Modern English, en 1982, chez 4AD, c'est I Melt With You.
making love to you was never second best. I saw the world crashing all around your face, never really knowing it was always mesh and lace. I'll stop the world and melt with you. You've seen the difference and it's getting better all the time. There's nothing you and I won't do. I'll stop the world and melt with you. We should know better. Dream of better lives, the kind which never hate. We should see. Trapped in a state of imaginary grace. We should know better. I made a pilgrimage to save this human race. Sad long gone by. I'll stop the world and melt with you. You've seen the difference and it's getting better all the time. There's nothing new and I won't do. I'll stop the world and melt with you.
Mishka Asayas.
Come to miss the perfect crime.
ancien, mais il a gardé toute sa fraîcheur, ce titre de 1990, Special One, signé par un groupe bien oublié, le New-Yorkais Ultra Vivid Scene. La voix qu'on a entendue était celle d'un garçon qui avait alors 23 ans, Kurt Ralske, qui avait, vous avez entendu une voix féminine, bien c'était Kim Deal, des Pixies et des Breeders, qu'on a entendu tout à l'heure, il l'avait invité à chanter dans ce titre. Alors, Ultra Vivid Scene est un de ces groupes de second plan, peut-être, à la brève durée de vie, qui, en cette période charnière, fin des années 80, début des années 90, ont correspondu à l'orientation nouvelle propre à la compagnie londonienne 4AD, qui accueillait de nouveaux talents du rock indépendant américain qui ne trouvaient pas d'écho autre que local dans leur propre pays. Alors, il y a eu les Pixies, les Breeders, j'en avais parlé pas mal de fois, mais d'autres aussi, on va en entendre quelques-uns ce soir. Alors, autant les groupes que je viens de citer transmettaient une certaine tension, quelque chose de dur, autant Ultra Vivid Scene et puis d'autres se situaient sur un autre versant. Il y avait dans la voix de Kurt Ralske, d'ailleurs il a vite arrêté la musique pour embrasser une carrière dans l'enseignement artistique, multimédia, tout ça, quelque chose de mélancolique, quelque chose de détaché mais avec légèreté, quelque chose qui rappelle un excellent groupe de l'époque anglais, très défendu par les Incorruptibles et Bernard Lenoir. Je veux parler de l'excellent The House of Love. Et puis c'était aussi les débuts du mouvement qu'on a appelé par moquerie, mais enfin c'est resté les shoegazers, vous savez, ces musiciens qui apparaissaient sur scène enveloppés dans un brouillard de fumigène, qui n'avaient pas un mot pour le public et qui fixaient d'un air morose le bout de leurs chaussures. Faut dire qu'avec toutes les pédales d'effet branchées sur le guitare, c'était important pour eux de viser juste. Alors tu vois, il y avait un désir de légèreté, d'apesanteur, qui donnait envie de voler comme ça par-dessus les décombres du rock, alors que le grunge plus terrien traduisait plutôt l'envie, façon de parler, de se vautrer dedans. La compagnie 4AD avait son groupe de shoegazers qui a contribué à définir le genre. C'était l'excellent Lush, animé par deux chanteuses et guitaristes londoniennes. Alors en tout cas, il y a presque toujours une constante dans les choix de Ivo Watts-Russell, ce sont les voix. Des voix qu'on n'oublie pas, qui les expriment l'angoisse, l'exaltation, la souffrance, le désir d'être ailleurs, ou bien encore tout ça à la fois. Prenez celle de Christine Hirsch, par exemple. On a un peu oublié un groupe du nom des Throwing Muses, qui fut, avant les Pixies, la première signature américaine de 4AD, et dont le premier album, paru en 1986, a eu un grand impact au Royaume-Uni, comme dans le reste de l'Europe. Un groupe qui venait du petit état du nord de la côte est des États-Unis, l'état de Rhode Island, et qui s'était formé à Boston. Il était animé par une chanteuse, guitariste et compositrice d'à peine 20 ans à l'époque, qui s'appelait donc Christine Hirsch. Elle avait formé ce groupe au lycée avec sa demi-sœur Tanya Donnelly, et toutes deux étaient le fruit de couples hippies qui vivaient en communauté et qui avaient, je l'invente pas, distribué du LSD à leur progéniture. Alors évidemment, ça les a un peu perturbés. Alors c'est tout à fait frappant quand on écoute cette chanson signée en 1994 par Christine Hirsch, une chanson qui s'appelle Your Ghost. On pense irrésistiblement, je suis sûr que vous serez d'accord avec moi, à Patti Smith. Ce qui s'explique en partie par le fait que c'est le très proche collaborateur de cette dernière, l'excellent Lenny Kay, qui a supervisé l'enregistrement de l'album de Christine Hirsch, dont la dite chanson est tirée, un album intitulé Hips and Makers. Un album d'ailleurs qui a beaucoup, beaucoup marqué son temps. Christine Hirsch, ce soir, dans Very Good Trip sur France Inter, une soirée consacrée à l'héritage de la compagnie de disques 4AD.
If I walk down this hallway tonight, it's too quiet, so I pad through the dark and call you on the phone. Push your old numbers and let your house ring till I wake your ghost. Let him walk. It's not this quiet. Slide down your receiver. Sprint across the wire. Follow my number. Slide into my hand. It's the blaze across my nightgown. It's the phone. Driving circles.
I ask that you would stay in
se souvient de la voix magique de Paula Fraser et du groupe Tarnation. Tarnation, un mot que vous trouverez pas dans un dictionnaire bilingue anglais-français, une interjection désuète qu'on pourrait rendre par sacrée misère. Eh bien, nous rappelons ce soir Like a Ghost, cette chanson country aux accents hispaniques, imprégnée d'un mystérieux parfum psychédélique. On pense à la fois au groupe de la fin des années 60, Love de Los Angeles, et au plus récent Calexico, qui est né à la lisière du désert de l'Arizona. Eh bien, cette chanson était le fruit de Tarnation à la fin des années 90. Un groupe bien oublié dont les enregistrements se sont diffusés en Europe grâce à la compagnie 4AD. Alors à la fin des années 90 justement, Ivo Watts-Russell, je vous l'ai dit, avait revendu ses parts et émigré aux États-Unis. Il s'est installé il y a plus de 20 ans dans la région de Santa Fe au Nouveau-Mexique et à l'heure où je vous parle, enfin d'après les informations dont je dispose, eh bien il y vit toujours. Il paraît qu'il habite tout seul là-bas, une maison avec ses chiens. Alors je sais pas quelle part a eu Watts Russell dans la découverte de Tarnation et de son lancement chez 4AD, puisque la diffusion des premiers enregistrements du groupe correspond à peu près à l'année de son départ. Mais j'aurais tendance à penser, je parierais même que c'était son choix à lui. Paula Fraser, en effet, est une de ces chanteuses qui avait de quoi le fasciner. Elle semblait venir d'un territoire comme vierge, et son histoire d'ailleurs est de celle qui pourrait fournir la matière d'un film. Paula Fraser était le fruit de la rencontre entre une ruralité archaïque, un petit village de Géorgie au pied des montagnes des Appalaches, un père pasteur presbytérien, une mère qui enseigne le piano, au temple, on chante des cantiques, puis à la maison parfois on écoute de vieilles chansons country désespérées qui parlent de perdition et de damnation, et puis brusquement, j'allais dire violemment, il y a la rencontre avec un autre monde. Paula Fraser écoute Led Zeppelin, on sait dans son village que la fille du pasteur fume des pétards en écoutant du rock satanique, et évidemment c'est un scandale à tel point que la famille doit déménager, vous imaginez. Alors à 18 ans, Paula se balade à travers les États-Unis et débarque où ? À San Francisco, et là c'est le choc. Elle découvre le punk rock naissant et elle décide de devenir guitariste. Elle l'est un certain temps, et puis autre choc très inattendu, elle découvre une chorale polyphonique bulgare qui la bouleverse. Étonnante coïncidence quand on connaît l'histoire de 4AD, je vous en parlais d'ailleurs tout à l'heure. Elle se joint donc à ses chanteuses et parallèlement fait des études d'archéologie. Et à 30 ans passés, Paula Fraser a fait pour ainsi dire le tour du cadran, et elle retourne à ses racines country archaïques, forte d'expériences qui l'ont entraînée aux antipodes de son enfance. Les thèmes de perdition, de désespoir, de désir de rédemption dans lesquels a baigné justement son enfance prennent un tout autre sens après les expériences qu'elle a vécues. Et cette combinaison de country ancienne et d'âpreté punk liée à un ample sentiment de désolation, aujourd'hui c'est banal, on pense par exemple à une Cat Power ou même à Nick Cave, était en ce milieu des années 90 quelque chose qu'on n'avait jamais entendu et qui était tout à fait nouveau. Et que Paula Fraser et son magnifique groupe Tarnation ont contribué à créer. Alors voici maintenant, retour en Angleterre, un de ces groupes qui, tout à fait singuliers, qui ont fait 4AD, que 4AD a lancé au début des années 80, avant donc ce tropisme américain. Groupe essentiellement instrumental, né à Londres, un groupe qui s'appelait Def Jazz, a certainement anticipé certains aspects de ce qu'on a pu appeler le post-rock, c'est-à-dire éléments de musique classique, de jazz, mais flottant dans des ambiances sourdes et oppressantes, bien éloignées d'ailleurs des rêveries aériennes de ce qu'on appelait la musique progressive une quinzaine d'années auparavant, avec une espèce de transe répétitive. C'était les années 80. Derrière le sourire et l'esprit positif et entrepreneurial, l'angoisse grondait. On peut trouver un peu de l'héritage de l'obscur Def Jazz dans un groupe comme le canadien Arcade Fire. Et pour ce titre, Love Insane, Def Jazz avait accueilli la voix de la chanteuse de Cocteau Twins, Liz Fraser. Je vous en reparlerai. Thank you.
Along the floating ship's oceans, I did all my best to smile to your singing eyes and fingers drew me dream. You dreamed about me. Were you here when I was born? Now my foolish boat is leaning, broken up long. For you sing, touch me not, touch me not, come back tomorrow. Oh my heart, shines from the sun. Should I stand at the breakers, or should I lie with death my bride? Hear me sing, swim to me, swim to me.
Doute certainement même le sommet de ce qu'a pu produire la compagnie 4Ready, la quintessence de cette entreprise, cette reprise d'une chanson de Tim Buckley, le père de Jeff, Song to the Siren, par la chanteuse du groupe Cocteau Twins, Liz Fraser. Le titre était attribué à un groupe du nom de This Mortal Coil, à la lettre cette enveloppe charnelle. C'était un ensemble de musiciens appartenant à différents groupes, assemblés par Ivo Watts Russell. C'est lui qui choisissait les chansons, les interprètes et les orchestrations. Et donc This Mortal Coil, c'était vraiment le fruit de sa vision. Alors il faisait reprendre à ses chanteurs et chanteuses préférés, enfin de son écurie, eh bien des chansons de musiciens qu'il admirait, Alex Chilton, Roy Harper, Tim Buckley évidemment. Et alors il y avait parmi les interprètes Liz Fraser qui avait co-fondé le groupe Cocteau Twins. Elle venait comme son compère Robin Guthrie d'un village perdu d'Écosse et elle chantait dans une langue dont son invention. Il y avait aussi Liz Jarrett de Dead Can Dance. Hein, j'y reviendrai tout à l'heure. Alors la publication la plus surprenante de 4Ready dans ces années-là a certainement été un disque d'un ensemble vocal de ce que certains spécialistes de l'ethnographie musicale connaissent sous le nom tout à fait étrange du mystère des voix bulgares. Alors, l'histoire est marrante. Un des camarades de Ivor Watts Russell, le chanteur de Bauhaus, hein, Peter Murphy, était tombé par hasard sur cet enregistrement. On lui avait filé une cassette en Australie. Et Murphy, qui ignore totalement ce que c'est, transmet une cassette, cette cassette, à Watts Russell. Et celui-ci est complètement subjugué. Il a jamais rien entendu de pareil. C'est un équilibre quasi surnaturel d'harmonie et de dissonance qui semble surgir d'un monde inconnu. Tout ce que sait Murphy, c'est une piste, c'est qu'il s'agit d'une chorale d'Europe centrale. Alors des connaisseurs finissent par éclairer Watts Russell et il comprend, enfin grâce à des connaisseurs donc, que cette cassette correspond à un 33 tours publié en 1975 par un musicologue de Suisse romande du nom de Marcel Cellier. Un 33 tours diffusé sous le titre donc Le mystère des voix bulgares. Watts Russell prend le disque en licence, 100 000 exemplaires vendus, vous imaginez, hein, rien qu'en Grande-Bretagne, et le reste de l'Europe suit. Aux États-Unis, la compagnie Nonesuch emboîte le pas, et un demi-million d'exemplaires de cet album finira par s'écouler. À l'origine, Marcel Cellier et sa femme, hein, des passionnés de musique ethnique, avaient sillonné les routes des pays d'Europe de l'Est, s'arrêtant au gré de l'inspiration dans des villages, munis d'un magnétophone à bande Telefunken. Alors en ce temps-là, vous imaginez, on circulait pas comme on voulait, hein, dans des pays comme la Bulgarie qui était très fermée, soumis à des dictatures totalitaires contrôlées par l'Union soviétique. Il fallait des autorisations, enfin on était extrêmement surveillés. Mais enfin, le couple Cellier a pu réaliser, paraît-il, 5000 enregistrements, dont lui, Marcel Cellier, a diffusé le meilleur dans un programme qu'il a produit pour la radio de la Suisse romande de 1960 à 1985, et qui s'appelait, c'est un beau titre poétique, de la mer Noire à la mer Baltique. Alors en fait, cette chorale féminine, c'est là que c'est intéressant, n'avait pas surgi par hasard dans un village de montagne. Moi j'avais longtemps imaginé ça. Pas du tout, j'ai lu des choses là-dessus, ça m'a vraiment beaucoup intrigué. En fait, l'État bulgare socialiste, communiste, avait nommé à la tête d'un organisme officiel un musicien, ça s'invente pas, chargé d'éliminer de la musique populaire les tendances antisocialistes, entre guillemets, et d'orienter le répertoire patrimonial dans un sens progressiste. Et c'est ainsi que un certain Philippe Kitiev a créé un ensemble vocal féminin composé de chanteuses traditionnelles de la région de Sofia, et il a créé pour elles des partitions qui intégraient les dissonances savantes de Debussy et les recherches atonales de Schoenberg. C'est ainsi qu'est né cet ensemble qui s'appelait à l'origine le chœur féminin de la télévision bulgare, à la source, donc une rencontre tout à fait extraordinaire, enfin détonnante, entre la tradition folklorique et l'avant-garde musicale du XXe siècle. Et ce soir, c'est le mystère des voix bulgares diffusé par 4Ready dans Pilen Sepi, c'est dans Very Good Trip sur France Inter, évidemment.
Bye.
The Writing on My Father's Hand, un titre signé en 1988 par un duo, le duo unique en son genre de Dead Can Dance, qui avait été formé par deux émigrés anglo-irlandais à Melbourne en Australie, installés à Londres et puis passés en quelques années du rock post-punk à la musique médiévale et modale, style attendu. Dead Can Dance a emprunté au folklore celtique comme à ceux du Moyen-Orient, une démarche très inattendue vu le passé des protagonistes, encouragé par ce visionnaire qu'a été le londonien Ivo Watson Russell via 4AD, qui la compagnie qu'il a créée au début des années 80 et à laquelle nous consacrons cette soirée. Voilà, le temps passe, j'avais envie de vous parler de lui encore, ce sera peut-être pour une autre fois. Alors il faut quand même rappeler que 4AD a aussi révolutionné ce qu'on commençait à appeler la dance en lançant un titre qui s'appelait Pump Up The Volume, qui était le fruit d'une collaboration entre deux groupes, Colorbox et A.R. Kane. C'était en 86 et pour la première fois, les techniques du hip-hop, c'est-à-dire échantillonnage, enfin sampling si vous préférez, ont été utilisées pour faire danser les gens. Mais je préfère vous faire écouter ce soir un titre publié par 4AD à la fin des années 90 et qui a mieux vieilli ça s'appelle Polyyesterday, du groupe islandais Gus Gus, de l'électro-funk boréal, on pourrait dire, et c'est toujours dans Very Good Trip, ce soir sur France Inter.
Asayas.
Summer dress. makes you more beautiful than the rest. Loveliest girl that I know and the sweetest. Spends her life inside. She thinks she isn't blessed. Summer dress separates you from the rest. Easiest days of her life have been spent. Wonders if she is loved. If she is missed, says a prayer as she's kissed by ocean mist. Takes herself to the sand and dreams.
Soit rendu à Ivo Watts Russell et à la compagnie 4AD de nous avoir fait découvrir un de mes musiciens préférés de ces 30 dernières années. Il est apparu au début des années 90. Je veux parler de Mark Kozelek, qui s'est fait connaître au sein du groupe qu'il avait créé à San Francisco, qui s'appelait Red House Painters. On vient d'entendre vraiment un des sommets de la première partie de son œuvre, parce qu'il est vraiment, elle est extrêmement abondante. C'était Summer Dress, et c'est dans un album qui s'appelle Ocean Beach. Voilà, un merveilleux guitariste, surtout chanteur captivant, pour en entendre des heures sans se lasser. D'ailleurs, ça m'est arrivé. Il a toujours cette très belle voix où la fêlure était comme couverte par son timbre cuivré. Pas un joyeux dream, enfin, c'était rarement le cas au sein de 4AD. Voilà. Alors, j'étais très, très gourmand pour ce soir. Alors, si vous êtes allé consulter la page internet, vous constaterez qu'il y a deux ou trois titres que j'ai pas pu passer. His Name is Alive, Pale Saints. Enfin, voilà. Bon, c'est comme ça. On peut pas tout faire. Demain, ce sera une sorte de concert rêvé idéal de Marianne Faithfull. Elle sera pas avec nous, mais enfin, on essaiera d'imaginer qu'elle est là. Puis voilà, il me reste à remercier Charles de Cilia qui a réalisé l'émission ce soir. Il y avait Benjamin Troncin à la technique. Merci beaucoup à Romain Couturier et à Zora Ben Smiley pour le site internet.